VOA Afrique.
Vous écoutez le monde.
Les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 13h, temps universel. Bonsoir, bienvenue. Reprise demain mardi du procès des officiers proches de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. Ouvert le 9 juin, ce procès avait été suspendu 2 jours plus tard. 9 officiers pro-Gbagbo comparaissent donc pour leur rôle présumé dans des exactions durant la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Monsieur Gbagbo, lui-même emprisonné depuis 3 ans à La Haye, doit être jugé à partir de novembre pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Et journée historique pour la justice africaine aujourd'hui au Sénégal, le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré pour crimes contre l'humanité commis sous son régime de 1982 à 1990 a commencé à Dakar. Le prévenu a été amené de force au tribunal spécial qui doit le juger, d'après l'AFP. La réaction de Clément Abbé Fouta, il est le président de l'association des victimes des crimes du régime d'Hissène Habré.
J'ai été arrêté le 12 juillet 1985 et libéré le 7 mars 1989 en Ndjamena. J'ai passé 4 ans donc dans des conditions inhumaines. C'était de la torture, c'était de la bastonnade et de ce quoi j'ai été obligé, n'est-ce pas, d'enterrer mes collègues pendant tout le temps de ma détention. Mais il faut dire que c'est un moment plein d'émotions, une longue marche avec beaucoup de défis et je crois que c'est vraiment une satisfaction que je puisse voir Hissène Habré à la barre. Le lundi 20, c'est le couronnement d'une longue attente, le couronnement de beaucoup de sacrifices. Et je me dis que c'est une satisfaction pour nous, les victimes.
Clément Abbé Fouta, le président de l'association des victimes des crimes d'Hissène Habré. Au Burkina Faso, le président Michel Kafando cherche à remettre le processus de transition sur la bonne voie. Il a remercié hier son ministre de la Sécurité, le colonel Auguste Denis Barry, mesure visant à satisfaire l'armée qui exige le départ des militaires du gouvernement. Vendredi dernier, il avait déjà retiré le portefeuille de la défense à son premier ministre, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, mais il a conservé à la tête du gouvernement. Le président Kafando cumule désormais les portefeuilles de la défense et de la sécurité. Ces décisions du chef de l'État ont coïncidé avec l'annonce par le conseil de transition de la mise en accusation de l'ex-président Blaise Compaoré et de plusieurs de ses ministres pour haute trahison, entre autres. Que pense le public burkinabé de ces nouveaux développements? Notre correspondant à Ouagadougou, Soumana Ounougo, a promené son micro dans les rues.
Marcel Tankono, M21. Nous saluons à sa juste valeur le discours du président du Faso. Un grand discours parce qu'il y a de la sagesse à l'intérieur. Il a appelé tout le monde à regarder vraiment l'intérêt supérieur de la nation. Et il a pris la sage décision de reprendre des mains du Premier ministre le ministère de la Défense. Il scinde également le ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité en deux. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons que nous réjouir. Nous sentons que la tension s'abaisse. Donc, ce qui nous reste aujourd'hui, en tant qu'acteurs quand même, nous accompagnons toujours cette transition jusqu'au soir donc du 11 octobre 2015. C'est en ce moment-là qu'on peut se réjouir et faire un ouf de soulagement.
Madame Safouratou Ouédraogo, commerçante à Ouagadougou. Je pense que le chef d'État a bien fait de maintenir le Premier ministre parce qu'il nous reste seulement 3 mois pour terminer la transition. Je pense que ce ne serait pas sage de se défaire de son Premier ministre. En 3 mois, je ne sais pas quelle nouvelle personne pourrait faire mieux que ce qui a été déjà fait. Concernant la mise en accusation du chef de l'État, Blaise Compaoré, et de certains de ses ministres, cela est tout à fait juste. Toute personne ayant spolié ce peuple doit répondre.
Je m'appelle Lassina Sawadogo, je suis jeune fonctionnaire. Je pense qu'à 3 mois des élections présidentielles, c'était la décision qui, à mon avis, devait être prise pour sauver déjà ce qui peut être encore sauvé. Et puis, en deuxième position, il y a cette inculpation de Blaise Compaoré et de tout son gouvernement. Vous savez, c'était une exigence un peu de l'insurrection. On pensait que ça allait être les premières mesures de l'insurrection dès que Blaise Compaoré est parti. On a tergiversé un peu, on a traîné. Et puis, on a vu que l'ex-parti majoritaire semblait avoir trouvé un second souffle et puis même à terre entrée dans une sorte de zèle après la décision de la CEDEAO. J'ai envie de dire que c'est maintenant que l'insurrection commence à donner ses premiers fruits parce que c'est ce qu'on attendait depuis longtemps.
Sidiki Dramé, secrétaire général du syndicat autonome des travaux de l'invention de la culture, membre de la coalition nationale contre la vie chère. Ce que les organisations de la société civile, les syndicats en particulier, ont demandé, c'est que les irruptions répétées du régime de sécurité présidentielle sur la scène politique prennent fin et que sa dissolution soit effective parce que par 3 fois, il y a eu des remous et la transition a été mise en difficulté. La mise en accusation de l'ancien président Blaise Compaoré pour haute trahison, si la haute cour de justice effectivement se saisit des différents dossiers, il y aura en tout cas justice. C'est sûr que les bourreaux d'hier ne pourront pas revenir sous d'autres manteaux pour siéger encore au nom du peuple, ce même peuple qu'ils ont toujours brimé depuis plus de 20 ans.
Micro-trottoir réalisé au Burkina Faso, à Ouagadougou, par Zoumana Ouanougo, notre correspondant sur place. Crise au Burundi, la médiation ougandaise a suspendu les négociations entre le pouvoir et l'opposition pour cause d'absence de la délégation du gouvernement. Il n'y a donc pas eu de discussion hier dimanche. Claire Morin-Jibou a joint le ministre burundais des Affaires étrangères, Alain Nyamitwe, qui participe pour parler pour le point de vue du gouvernement sur les négociations.
En réalité, on ne les a pas arrêtés. Comme le facilitateur l'a aussi dit, il y a eu une absence, c'est vrai, du gouvernement, mais absence ne veut pas dire arrêter le processus. Donc le processus continue, comme le président Museveni lui-même l'avait dit, qu'on va négocier continuellement. Donc il y a eu des raisons qui ont fait que le gouvernement ne soit pas là, c'est qu'il y avait un grand événement au Burundi qui était celui de l'élection des maires de toutes les communes du pays. Plus de 120 communes dans le pays. Par conséquent, et le parti au pouvoir et le gouvernement étaient tous mobilisés par cet événement.
Alors, les délégués du gouvernement ont accusé tous les opposants d'être des putschistes. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un peu de provocation là-dedans ?
D'abord, tous les opposants, ce serait une exagération. Deuxièmement, qu'une partie de l'opposition se soit alignée dans une logique de putsch, je crois que si on lit le document qu'ils ont sorti portant sur la création de ce qu'ils ont appelé le Conseil national pour la restauration de la Côte d'Arusha et de la Constitution, on se rend compte qu'il y a une réalité poussisante derrière.
Que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'éviter d'aborder la question du calendrier électoral ?
Bon, encore une fois, je trouve que c'est un raccourci intellectuel dans la mesure où, d'abord, tout le monde sait très bien que le gouvernement a dû repousser les échéances électorales plus d'une fois, suite à des recommandations de la région, qui, dans tous les cas, a toujours dit que quoi qu'on repousse, on reste dans les limites de notre constitution. Par exemple, l'élection présidentielle ne peut pas se passer en une période qui soit moins d'un mois avant la fin de l'échéance. Or, l'échéance, c'est le 26 août. Par conséquent, la dernière date, c'est le 26 juillet.
Allez-vous être aujourd'hui de retour à la table des négociations ?
Si on nous appelle pour encore discuter, je pense que le gouvernement saura répondre avec toute la responsabilité qui lui est reconnue dans ces discussions. Nous sommes ouverts, nous restons ouverts pour qu'on discute des questions qui seront de toute manière établies de commune entente avec la partie adverse, c'est-à-dire l'opposition.
Le ministre burundais des Affaires étrangères, Alain Nyamitwe. Agenda africain cette semaine pour le président Barack Obama. Le chef de l'exécutif américain reçoit aujourd'hui à Washington son homologue nigérian Muhammadu Buhari pour des discussions qui vont porter en priorité sur la menace posée par le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Puis Barack Obama va s'envoler jeudi pour Nairobi au Kenya, sa première visite en tant que président au pays natal de son père. Deuxième étape de son périple africain, le siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour le premier séjour d'un président américain en Éthiopie. Ce voyage en Afrique intervient alors que le département d'État américain lance une nouvelle mise en garde contre de possibles attaques terroristes au Kenya. La lutte antiterroriste sera encore au premier plan des discussions entre le chef de l'exécutif américain et les leaders du Kenya et de l'Éthiopie, Idriss Assiedou Dia.
Pendant sa tournée de 2013 au Sénégal, en Afrique du Sud et en Tanzanie, le président Obama avait annoncé des initiatives pour renforcer la coopération américaine avec le continent dans les domaines du commerce, des investissements et des infrastructures. Selon lui, ses visites au Kenya et en Éthiopie visent à envoyer un message similaire, à savoir que les États-Unis sont des partenaires solides non seulement avec ces deux pays, mais aussi avec toute l'Afrique subsaharienne.
Build on the progress that's been made around issues of health and...
Bâtir sur les progrès qui ont été réalisés dans les secteurs santé et éducation, se concentrer sur les questions de lutte antiterroriste qui sont importantes pour l'Afrique de l'Est à cause d'Al-Shabaab et de certaines tragédies qui ont frappé l'intérieur du Kenya.
Rétablissement des relations diplomatiques normales entre Cuba et les États-Unis. Cette mesure est entrée en vigueur aujourd'hui à 4 heures temps universel, 0 heure temps de Washington et de La Havane, et elle met fin à plus de 50 ans de recul entre les deux pays. L'ambassade de Cuba à Washington rouvre ses portes ce lundi. Jean-Roger Billon à ce micro. On se retrouve dans 50 minutes pour un nouveau point de l'actualité. Merci de nous avoir choisis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.